RCF.
Auditrices, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue avec les neveux de René. Embarquement immédiat pour les terres philosophiques. Nous dialoguons, nous continuons le dialogue entamé avec Olivier Ray. Vous êtes avec Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, sans tarder davantage, on va se plonger dans un livre qui s'appelle « Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine », donc par Olivier Ray, et nous donnons la parole à Anne.
Oui, donc là, Olivier Ray parle des gens positifs. Et donc, il dit « Les gens positifs haussent les épaules. Aujourd'hui, les gens positifs ont des épaules surtout pour les hausser. » Par exemple, quand on leur parle du sens de l'existence. Du reste, si on insiste, ils ont toujours des réponses toutes faites pour se tirer d'affaire. Rien de convaincant, mais tant pis, qu'on ne les ennuie pas avec des questions pareilles. Notre société ne propose aucun sens à l'existence humaine. Et alors, c'est à chacun, individuellement, de le trouver. Chacun son business. Mais c'est faux. Le sens n'est pas une affaire personnelle. Un sens qui ne vaudrait que pour soi n'en est pas un. Voilà pourquoi on ne peut prendre son parti du non-sens général. À s'en accommoder, on prépare une nouvelle crise, auprès de laquelle les précédentes feront plus figure de plaisanterie. On parle beaucoup de nos jours de la dignité de l'être humain. Mais la dignité de l'homme ne vient pas, en premier lieu, de ce que ses besoins matériels sont comblés et ses droits respectés. Elle vient de ce que son existence a un sens. En le cherchant, ce sont, par contre-coup, des catastrophes et la désolation qu'il s'agit de prévenir, dans les formes de conscience et, par un lien fatal, dans la vie la plus immédiate.
Merci Anne. Alors, première chose qu'il faut décrypter, qui sont ces gens positifs? Comment vous comprenez l'adjectif positif? Alors, il y a une ambiguïté hein, oui. Du mot positif. Je pense qu'ici, les gens positifs, c'est vraiment dans un sens dérivé de celui qu'a donné Auguste Comte au terme, hein, donc où positif renvoie au positivisme. Et donc, c'est la doctrine selon laquelle on doit être sûr des choses. Hein. Donc, positif, ça s'oppose à quoi?
Alors, ça, c'est une bonne question.
Petite colle dans le langage philosophique.
On dirait négatif, mais non, c'est
non,
pas ça.
Non, justement. Alors, positif, ça veut dire, ça s'oppose à métaphysique. Ouais. D'accord? Donc, ouais. Ça veut dire, ici, les gens positifs, c'est ceux qui haussent les épaules, en disant, mais arrêtez de philosopher, quoi. En
fait. Ça traduirait une sorte de pragmatisme, alors. Hein,
voilà. Quoi. Voilà. On peut traduire par pragmatique, effectivement. C'est les gens pragmatiques, d'une certaine façon. Oui. Le terme mérite d'être. Donc ça nous pose dans l'ambiance. Donc ça pose la question du sens, hein. C'est ça. C'est cette question-là qui traverse tout cet essai qui s'appelle Itinéraire de l'égarement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Un sens qui ne vaudrait que pour soi n'en est pas un.
Ben, ça c'est intéressant parce que il pose là. En fait, je pense qu'il se pose dans le contexte effectivement de la vie en communauté. L'être humain est un être qui vit en groupe.
Oui.
Et effectivement, pour que le groupe puisse exister, qu'il puisse y avoir une cohésion dans le groupe, il est important qu'il y ait un sens commun qui soit partagé par tous les membres du groupe.
Oui.
Si chacun vivait de son côté, effectivement, chacun pourrait se faire, entre guillemets, se construire son propre sens individuel, et ça ne poserait pas de problème particulier. Ce qui pose problème, c'est ça, c'est le sens au sein du groupe, et du coup, ce qui amène l'évolution du groupe, comment le groupe va évoluer, si on arrive à trouver un sens commun ou pas.
Alors, une chose qui est intéressante, c'est que peut-être que on pourrait rétorquer, Olivier Ray, que la philosophie apprend presque le contraire. Faut savoir, Socrate dit « je préfère avoir raison tout seul être dans le groupe si jamais il me semble que le groupe est en train de suivre la mauvaise voie. Et la philosophie, c'est quand même ça.
Oui, enfin là, je ne sais pas pourquoi on invoque Socrate, puisque Socrate, au contraire, s'est beaucoup, beaucoup préoccupé, bon, Socrate et Platon, de la communauté, de la société, au point même que pour lui, l'âme, ça référait aussi à la société.
Donc,
c'est toute sa vie, presque.
C'est ça, c'est toute sa vie, non, c'est une très bonne remarque, Anne. C'est-à-dire que il y a chez Socrate même l'idée que la politique, c'est ce qui soigne l'âme.
Oui.
Quand il dit, dans le Gorgias par exemple, mieux vaut subir l'injustice que la commettre,
ben oui, bien sûr,
c'est toujours ça. C'est-à-dire que si je subis une injustice, il se peut que moi je devienne plus juste.
Je pense que Socrate ou Platon, enfin les deux au final, ne seraient pas opposés à cette phrase. Parce que justement, la nuance viendrait plutôt au niveau de quel sens. Et le travail de Socrate et de Platon, c'était de trouver le bon sens, entre guillemets.
Oui.
C'est surtout ça le problème, la difficulté.
Quand on dit un sens qui n'en vaudrait que pour soi, ça n'exclut pas l'idée que, quand même face au groupe, je peux quand même trouver un sens pour moi. Mais dans l'idée qu'il sera un jour peut-être partagé par le groupe, si on croit au triomphe de la vérité. Je vois que tu es d'accord.
Non, je pense que c'était bien l'objectif de Platon.
Du Platon.
Ouais.
Mais justement, de nos jours, on ne croit plus qu'il y a une justice, une vérité. Voilà. Alors, la question qui est posée par Olivier Ray, c'est comment on en arrivait là. Donc, dans sa réflexion, on peut repartir justement de l'idée qu'il y a de nos jours, les gens positifs, c'est ceux qui s'appuient sur l'effectivité de la science. Non, son côté qui marche. Et peut-être pour comprendre comment on en est arrivé là, il peut être intéressant de revenir peut-être à cette époque du rationalisme, avec notamment les noms capitaux que sont Galilée et Descartes. Hein, d'accord. Et toi, tu disais, Anne, qu'il y avait un extrait, un passage de Galilée qui t'avait beaucoup intéressé.
Oui, donc c'est... je vais le lire, hein, du coup.
Oui.
Voilà. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui est constamment ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures de géométrie, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur.
Alors donc ça, c'est en page 44 de cet essai qui s'appelle « Itinéraire de l'égarement » qui est paru au Seuil en 2003. Oui, alors pourquoi ça t'a interpellé, Anne?
Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que toute ma vie, tout l'univers n'est plus que des maths, plus que des maths.
Voilà, pour préciser ce qui a été lu, c'est un passage de l'essayeur, hein, de Galilée.
Oui, merci. Oui, très bien. Qui est paru aux belles lettres.
Oui, parce que tout d'un coup, on a l'impression que nous ne sommes plus que des mathématiques, tout autant que nous sommes, et que nous avons peut-être un peu perdu de notre âme. Donc, c'est ça qui est.
Donc, la dissolution du sens, s'opère par une mathématisation extrême du monde.
C'est ça,
quoi.
Ce que dit Galilée là, finalement, enfin, ou ce qu'il a quelque part un peu initié, peut-être, c'est un remplacement du questionnement du sens par une description du monde, en fait. Une description et du coup, l'usage de la raison et de la logique. Comme si la raison et la logique suffisaient et pouvaient remplacer le sens, questionnement sur le sens.
Je vous pose une question à brûle-pourpoint. Est-ce que ce mouvement-là, il n'est pas accéléré par un facteur 1000 avec l'intelligence artificielle?
Si, malheureusement.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train... disons que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas une accélération par un facteur immense de ce mouvement-là?
Alors, c'est un petit peu différent, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, pardon, permet, entre guillemets, permet d'agir, en fait. Fait de l'action, c'est plus de la description. On est dans des systèmes qui vont pouvoir...
Oui, alors ça c'est aussi la distinction qu'on a déjà discutée avec Jean-Marc Lévy-Leblond sur science et technoscience, où science, on vise d'abord une connaissance, et technoscience, on vise d'abord l'opérativité. Donc effectivement, moi je dirais que ça veut dire que tout ça, c'est encore pire, quoi, quelque part.
Oui, c'est ça.
C'est dans une situation peut-être encore bien plus critique que celle qui s'est amorcée au XVIIe siècle avec Galilée et Descartes.
Et je voulais dire aussi, il avait fait, donc pour tous ceux qui aiment bien la philosophie, qu'il y a vraiment un passage que je trouve très très intéressant dans lequel il dit que Galilée donc se rapporte ici à Platon, même s'il a été un cran plus loin par rapport à Platon,
oui.
Et qui donc il laisse Aristote, donc il parle beaucoup du fait qu'on a laissé Aristote qui s'interrogeait sur l'être, hein, dans ce qui nous arrive aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Et donc je pense que vraiment il y a vraiment des pages très très intéressantes là-dessus.
Alors on peut rebondir sur cette question parce que il me semble que dans cette distinction, opposition, mais il faut pas oublier que Aristote est resté 20 ans auprès de Platon. Donc, faut pas opposer. C'était son élève. Mmh. Donc, si Aristote est resté si longtemps auprès de Platon, c'est que ça l'a intéressé.
Oui.
Mais il me semble que il y a quelque chose qui est intéressant, c'est il y a peut-être dans notre époque un oubli d'Aristote. Nous qui sommes des scientifiques, on sait plus ce que c'est que, par exemple, la cause finale, ce qu'on a appelé plus tard cause finale. Faudra qu'on y revienne peut-être dans les prochaines émissions, mais à savoir que, par exemple, un vivant, un être vivant, c'est un être animé d'une finalité. D'accord? Alors qu'effectivement.
Ça rejoint un petit peu les thèses de Leibniz et tout ça. C'est,
oui,
c'est
voilà. Ça. Leibniz, il a essayé de concilier un peu tout ça. Il a essayé de concilier, on veut dire, Leibniz, c'est celui qui concilie Platon et Aristote.
D'accord.
Et donc ça c'est intéressant parce que notamment pour en revenir à Olivieri, quand il parle de la question du transhumanisme, il dit peut-être que notre rapport au vivant est un peu biaisé du fait qu'on a oublié cette finalité des choses, le cosmos, le tout de l'univers et ainsi de suite.
L'harmonie générale.
L'harmonie générale, oui.
C'est le mythe.
Et le fait que les êtres vivants, les êtres humains, les sociétés sont animés d'un but propre. Voilà. Ou d'une finalité. Alors, on va continuer à cheminer. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale? Oui, Antoine me dit que oui. Donc, on va faire une petite pause musicale avec un extrait qui a été choisi par Anne.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors Anne, on était plongé dans une certaine nostalgie, je trouve que ça résonne bien avec cet essai d'Olivieri. Juste une petite parenthèse, une amie, donc Nathalie Flamand, me disait à propos de cet essai que pour elle, elle avait senti qu'Olivieri, par rapport à la science, était comme un amoureux déçu. Ouais. Et je trouve que l'image est très très belle. Voilà. Alors simplement, est-ce que tu peux nous dire qui est le compositeur et le pianiste?
Alors, le compositeur, c'est Schubert. C'est la sonate pour piano 959, le deuxième mouvement, l'Andantino, et le pianiste, c'est Brendel.
Voilà. Alors, ça nous plonge en plein 19e siècle, en plein ce qu'on appelle romantisme. Mais il faut se méfier des ismes. Mais peut-être ça nous place dans cet univers, justement, où on parlait tout à l'heure des révolutions amorcées au temps du classicisme, de Galilée, Descartes, qui est le temps aussi de Racine, etc. Mais Sylvain, peut-être on va reparler du 19e siècle et de ce mouvement d'individuation, c'est-à-dire comment on passe d'une pensée où l'être humain se conçoit comme d'abord appartenant à une communauté, à une pensée où d'abord je suis, je pense, donc je suis, donc un décentrement de la pensée, oui. Alors je vais citer effectivement un passage, enfin, je vais lire pardon, un passage, donc page 121. La tradition et les institutions ont perdu leur sacralité. On peut encore les suivre, mais par habitude, sans y adhérer, ou de manière volontaire, forcée. Malgré les voix, acrimonieuses ou éplorées, toujours impuissantes, prenant un retour à l'ancienne communauté organique en vérité condamnée, les hommes forment dorénavant une société d'individus, une société à l'intérieur de laquelle, ou contre laquelle, chacun d'entre eux aura et cherchera à s'affirmer.
Alors ça, on peut dire que c'est une thèse, parce que ce livre, Itinéraire de l'égarement, c'est le premier livre d'Olivier Rey, premier dans les deux sens du terme, c'est-à-dire chronologiquement, mais aussi philosophiquement parlant. Et on peut souligner une chose, c'est qu'il a écrit un essai qui s'appelle « Une folle solitude », deux points, « Le fantasme de l'homme autoconstruit ». Où c'est exactement ça qui va être ensuite développé. Au fond, ce que dit Olivier Rey, c'est une violence.
Bah oui, c'est voilà. Ça. C'est que l'homme, en fait, avant, il s'imaginait, enfin, il se plaçait dans un groupe. Et donc, un groupe, c'est forcément, ça peut être rassurant, ça peut être une force. Et là, maintenant, enfin, en tout cas, ce qu'il explique, c'est que avec cette individuation, la personne se retrouve quelque part confrontée au groupe. Elle se retrouve dans le groupe, mais en même temps, le groupe n'est plus forcément un allié, quoi.
Alors Anne, toi tu avais une autre vue des choses, si j'ai envie de dire, parce que tu avais un sentiment qu'Olivier Rey était un peu dans la nostalgie, le regret des temps passés, avec un certain air de « c'était mieux avant », c'est ça. Et est-ce que tu lis ce qui est dit là comme une volonté de conserver ce qui est, en disant c'était mieux avant ou pas? Moi je le lis pas comme ça, mais toi tu avais...
Non, on peut ne pas le lire comme ça, c'est pas forcément dans ce chapitre-là que c'est le plus évident. Oui. Il est bien évident que l'individuation à l'extrême est très très dangereux. Oui. Ça c'est tout à fait évident, mais je suis pas certaine que toutes les sociétés passées étaient si tellement bienveillantes vis-à-vis des humains et de la terre et des femmes en particulier. Oui. Donc c'est plutôt ça qui là, j'ai envie de mettre des bémols apparemment, j'ai envie de dire attention,
oui, c'est clair, c'est clair,
voilà.
C'est...
Mais je suis tout à fait d'accord que l'individuation est quelque chose est de dangereux, et on le voit bien pour la planète, hein, et en même temps, effectivement, c'est un risque pour l'individu.
Voilà. Oui. Tu parles de cette crise de l'environnement, crise écologique dans laquelle on est, et effectivement, il y a dans la transformation de l'homme en consommateur quelque chose qui est de cet ordre, hein.
Oui.
on est d'accord, c'est-à-dire on libère l'homme, il y a le projet des temps modernes de libérer l'homme, et puis on arrive à quoi? À l'homme qui clique pour choisir ses vacances, nous dit Olivier Rey, dont le but ultime c'est d'avoir un pavillon, un chien, un bon métier, d'aller au boulot.
Une page Facebook bien remplie.
Et une page Facebook bien remplie.
Avec beaucoup d'amis qui ont cliqué.
Et des selfies.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un truc qui a dégringolé. Et je crois que c'est ça, itinéraire de l'égarement. On peut relire le quatrième de couverture.
Ouais.
L'idéal moderne de liberté, l'affranchissement de la tradition pour mener sa vie propre et pour être soi-même, comment cela a-t-il pu déchoir en liberté de choisir le lieu de ses prochaines vacances.
Et on a vraiment l'impression que c'est vraiment la seule chose qui nous reste, de choisir ses prochaines vacances.
Voilà, donc, je crois qu'il faut, réfléchir plus en détail. On peut peut-être lire la suite un peu plus loin dans ce page 122, enfin pas beaucoup plus loin cette réflexion.
Couvé par le christianisme au fil des siècles, le souci de l'individu a perdu, en perçant sa coquille, la contrepartie que le même christianisme lui donnait. Dieu à l'agonie, bientôt mort, laisse l'homme émancipé seul avec lui-même. La philosophie du XVIIIe siècle voulait libérer l'homme de ses chaînes. La dernière année du siècle, Novalis écrit, on s'en souvient, « La philosophie est à proprement parler mal du pays, quelque chose qui pousse à être partout chez soi. » Ce qui signifie que l'homme européen, libéré et individualisé, se retrouve en même temps isolé, étranger au monde. Il n'est plus nulle part chez lui. Quels que soient les efforts et les subterfuges qu'il va déployer pour l'oublier, sa première réalité est devenue la solitude et le déracinement.
Et est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire, enfin, quand on voit que finalement on a tous la même culture, donc on pourrait dire aussi mais l'homme est partout chez lui, au contraire, puisque toute la culture est la même pour tous. Je me fais l'avocat du diable.
Oui,
hein.
Oui, oui, mais c'est pas faux. Alors, effectivement, les cadres... Alors, je vais juste dire une petite chose et je te passe la parole. Les cadres Alors, ça c'est quelque chose qui fait partie de la réflexion d'Olivieri, qui s'appuie beaucoup sur Ivan Illich.
Oui,
et finalement,
Illich,
il dit que un cadre dans
un contexte,
quel qu'il soit, où qu'il soit, au Chili, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie, ils ont effectivement une culture commune. Et Illich dit un truc que je trouve intéressant, c'est que les pauvres, eux, ils ont une... donc les pauvres, ils ont une différence. Ouais. Et c'est vrai, en fait, ces gens dont nous faisons partie, hein, on ne va pas s'exclure, qui voyageons de pays en pays en prenant le truc. Finalement, quand on va ailleurs, on a envie de retrouver les mêmes trucs, les mêmes hôtels, les mêmes repères, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est être partout chez soi, c'est être partout déraciné,
c'est ça. Je mettrais une nuance parce qu'en fait, le partout chez soi, c'est plus un sentiment. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément concret, physiquement palpable. Mais c'est aussi un sentiment, même entre guillemets chez soi physiquement, on peut ne pas se sentir chez soi. On peut ne pas se sentir appartenir au groupe.
Exactement.
On peut avoir un certain malaise.
Et ça, c'est.
Vous êtes l'avocat du diable.
Oui, mais c'est bien, merci. Non, mais je vais rebondir sur ce que dit Sylvain, parce que c'est très intéressant, parce qu'on pourrait opposer les cadres super dynamiques que nous sommes et qui voyageons et prenons l'avion et publions. On pourrait dire, par exemple, dans cette nostalgie, l'agriculteur, lui, il est vraiment chez lui, il est sous le ciel étoilé, etc. Sauf que non, c'est pas vrai. Au contraire, ce sont eux qui se sentent les plus exclus parfois, qui ont le plus de mal à se sentir parce que le monde paysan a disparu, parce qu'ils sont devenus exploitants. Moi, j'interviens au lycée agricole de Mirecourt. On a eu un super débat avec les jeunes adolescents qui suivent leur formation, ou jeunes adultes. Eh bien, ils ne savaient pas, par exemple, est-ce qu'il faut des tracteurs de plus en plus puissants. Et pour le coup, ça devient presque des ingénieurs, ces jeunes-là. Donc, effectivement, ce sentiment de plus être chez soi, attention, il ne faut pas dire que c'est que les cadres, machin, c'est quelque chose qui touche tout le monde.
Oui, puis il y a une question justement, qui est un peu citée juste après une citation de Nouvelis, je ne sais plus. Être un avec le tout, c'est cette notion d'harmonie, en fait.
Oui.
Ça, c'est important, en fait, parce que c'est plus ça, le sentiment d'être chez soi.
Lisons-le quelque part.
Être un avec le tout, voilà la vie du divin. Voilà le ciel de l'homme. Être un avec tout ce qui vit, dans un saint oubli de soi. Retourner au sein de la totalité de la nature. Voilà le sommet des idées et de la joie. Voilà les saintes âmes, le lieu du repos éternel, où la chaleur de midi n'accable plus et où l'orage perd sa voix, où le tumulte de la mer ressemble au bruissement du vent dans les champs de blé. Mais, hélas, j'ai appris à me différencier de tout ce qui m'environne. Je suis isolé au sein du monde, si beau. Je suis exclu du jardin de la nature où je crois, fleuris, et déchèche au soleil de midi.
Donc c'est Friedrich Hölderlin.
C'est Hölderlin. Une chose qu'on peut dire, c'est que précisément, il me semble que on ne peut pas dire que la position d'Olivieri soit passéiste. Elle regrette plutôt ce qui est dit là, et à savoir la perte d'un rapport au divin. Dans l'extrait qu'on a lu, il cite Dieu à l'agonie, bientôt mort. Donc c'est une référence à Nietzsche et son mot Dieu est mort. Mais Dieu est mort, ça ne veut pas dire Dieu n'existe pas. Ça veut dire nous avons perdu le rapport au divin. Et ce dont nous discutions aussi en préparation de cette émission, c'est est-ce que rapport à la nature, ça peut se faire sans le divin, justement. C'est là où ça nous différencie.
J'allais ajouter ça, c'est que il y a le rapport au divin, mais il y a aussi le rapport à la nature. Et je pense que, surtout dans les sociétés hyper industrialisées, donc modernes, je pense que beaucoup de gens ont perdu le rapport à la nature parce qu'ils sont loin, ils vivent loin de la nature, ils vivent dans des villes, dans des endroits où la nature est peu présente.
Mais là où, avec Anne, souvent on n'est pas d'accord, c'est que pour elle, je vais lui laisser la parole pour terminer, la question c'est que est-ce que l'être humain est au centre et est-ce que le divin ne permet pas justement de replacer l'homme dans le cosmos? Et est-ce qu'on peut avoir un rapport à la nature sans avoir de rapport au divin? Voilà,
Moi, je pense qu'on peut avoir un rapport à la nature sans avoir un rapport au divin. Et je ne suis pas sûre que le divin nous mette toujours dans le bon chemin par rapport justement à l'amour de la nature, ou si plutôt il nous en éloigne en nous faisant penser peut-être qu'on est quelque part quelqu'un de supérieur. Oui. C'est un peu ma crainte.
Mais voilà. Oui, alors on peut comprendre ça comme ça, et effectivement c'est un risque, mais on peut comprendre aussi que l'être humain qui n'est plus le centre se pose des limites, et toujours revient la question des limites. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on ne tranche pas la question, on la laisse ouverte, on la laisse à la réflexion de nos auditrices et auditeurs. Donc je rappelle l'essai dont nous venons de discuter, Olivier Rey, itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine, au seuil en 2003. Merci à Antoine Honora pour la technique. Rendez-vous dans deux semaines pour la suite des Neveux de René.